assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Faut-il nécessairement choisir entre Bacchus et Jésus ? Bacchus, je signale, c'est le dieu du vin. Alors, on associe souvent protestantisme et austérité. On associe souvent protestantisme avec ne pas boire du vin, avec la croix bleue, avec Théodore Monod, etc., etc. Bon. Pourtant, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Jérémy Cadière, qui n'a jamais voulu opposer les deux. Alors, bonjour Jérémy.
Bonjour Yolande.
Alors, vous êtes théologien et sommelier.
Absolument, entre autres choses.
Entre autres choses. Alors, on va pour le moment parler de théologie et puis de sommellerie.
Oui, sommellerie, oui.
D'accord. Alors, pourquoi d'abord, théologien, l'origine.
Ça fait un peu film Marvel.
Désolé.
Théologien, the origin. Non, en fait, théologien, j'ai grandi dans une famille chrétienne, dans une famille protestante, dans un petit village à Beauvoisin, dans le Gard. Et j'ai jamais été élevé dans un univers sceptique. On m'a dit que Dieu existait. Ok, Dieu existe, d'accord. J'ai fait mon petit pédigré du petit réformé classique. Donc,
école biblique,
catéchisme, ouais. Confirmation, etc. Et chose amusante, à ma confirmation, ça a été mon premier, entre guillemets, petit état d'ivresse, où mon parrain, pour mes 14 ans, il m'a dit « Allez, t'as droit à un petit fond de champagne. » J'avais pas mangé depuis 8h30, le culte et tout ça. Du coup, ma famille commençait à bouger de manière bizarre. Donc, bon, ça a été cocasse, mais voilà.
Déjà Bacchus et Jésus.
Oh, c'est ça, Bacchus et Jésus cohabitaient déjà. Oui. Bon, voilà, c'était ma petite anecdote. Mais en fait, j'ai fait mon chemin, j'ai été dans des églises évangéliques, et un jour, j'ai eu le besoin, suite à différents événements de ma vie, j'ai ressenti le besoin de servir Dieu à plein temps.
Ouais.
Et comme je ne fais jamais les choses à moitié, je me suis dit, je veux être pasteur.
Voilà. C'est pas une mauvaise idée.
Je sens un appel.
Oui.
Oui, non, c'est pas une mauvaise idée, ça dépend pour qui, mais
oui.
J'ai envie de servir Dieu à plein temps, je vais être pasteur. Donc j'ai fait le tour des différentes facs de théo, Vaux-sur-Seine, Aix-en-Provence, et finalement j'ai rencontré Jean-François Zorn à la fac de Montpellier, qui a fini par me convaincre, parce que je me cherchais un petit peu entre une théologie plutôt évangélique, plutôt réformée, je ne savais pas trop. Et Jean-François Zorn m'a convaincu par l'ouverture et me dire, ben voilà, chacun a sa place et... Et j'ai aimé et ça m'a mené où j'en suis maintenant. Donc, je suis allé jusqu'au processus Master 2, Master de théologie, voilà.
Mais vous avez quitté avant la CDM, avant la commission des ministères, c'est-à-dire avant de demander à devenir pasteur.
Alors, voilà, un cursus de Master 2, j'avais déjà entamé le cursus avec la CDM, mais c'était Christian Bacuet à l'époque et j'y ai dit, ben, je vais interrompre ça en décembre, décembre de mon année de Master 2, où j'ai dit, je vais pas donner suite, je veux plus être pasteur. Et parce que, en fait, le Noël d'avant, je pense, oui, le Noël d'avant, mes sœurs m'avaient offert un manga, Les Gouttes de Dieu. Et j'ai lu ça, et ça a ravivé en moi cet amour du vin, parce que j'ai grandi aussi dans les vignes.
Oui, voilà. Parce que là, il y a aussi quelque chose de familial ou d'ancien.
Ah oui, mais mes deux grands-parents étaient vignerons, enfin viticulteurs exactement.
Ouais.
Donc autour de chez moi, quand j'étais petit, j'ai vu des vignes arrachées, parce qu'il y a eu une campagne d'arrachage quand j'étais gamin, dans les années 90, après. Mais quand je suis né, petit, je me souviens, autour de ma maison, il y avait des vignes qui appartenaient à mon grand-père, qu'il a donné à mon père, et qu'ensuite mon père a fait arracher, parce que la vigne, lui, ça lui passait largement au-dessus. Et donc, j'ai toujours grandi dans l'univers viticole, quoi. J'avais la cave coopérative juste à côté de chez moi. Quand je rentrais en septembre, je jetais mon sac et je courais vite à la cave pour voir les raisins tomber dans les quais. Je passais le balai, c'était les anciennes pastières. Je passais le balai sur les pastières pour faire tomber tous les raisins. Enfin, j'ai toujours été dans le vin et j'ai toujours vu ma famille boire du vin. Mon grand-père a goûté avec sa fougasse et il mangeait un peu de rosé. Enfin, il buvait du rosé. Il mangeait la fougasse, il buvait le rosé. Enfin, voilà, donc il y avait la Cartagène. Quand j'étais plus grand, après... Ma grand-mère mettait un fond de Cartagène dans les pêches qu'elle me coupait en été. Donc voilà, il y a toujours eu ce contact avec le vin, la viticulture, disons le plaisir aussi épicurien, quoi.
Oui, oui, oui.
Parce que c'était du plaisir épicurien, pas par besoin de boire de l'alcool, quoi.
Et pendant les études, ça ne vous a pas semblé, comment dirais-je, moi, ça n'allait pas l'un contre l'autre Alors, épicurien et calviniste, ça peut se concilier ?
Dans ma première année d'études, j'avais une approche très radicale de la foi.
Oui.
Où je m'interdisais à boire plus de 3 verres de pastis, de vin ou autre,
ouais.
pour ne plus être ivre, quoi.
Oui, pour être tempérant.
Voilà, pour être tempérant. Et en fait, ma première année, j'ai rencontré, c'était un étudiant qui était un master pro, Christophe Cousinier, si jamais vous l'avez croisé.
Ah.
Et c'est avec lui que j'ai repris ma première cuite depuis quelques années.
On ne donne pas de nom, surtout à la radio, surtout quand il s'agit de cuite.
Oh,
mais
bah...
bon, c'est pas dramatique.
Mais parce que je ne diabolise pas ça.
C'est bien.
D'ailleurs, dans la Bible, l'histoire de Noé, la première cuite après le déluge... Non, mais justement, je ne suis pas pour boire avec modération, mais responsabilité.
D'accord.
C'est très important.
D'accord.
Parce qu'on peut causer des problèmes, il peut y avoir des risques, on peut faire du mal à des gens.
Oui.
Donc, modération, j'aime pas pour le côté moraliste, mais la responsabilité des gens, que je retrouve dans ma foi d'ailleurs, en tant que théologien, je veux qu'elle soit responsable dans ce que je fais, dans ce que je dis, plutôt que des règles à obéir, il faut je veux ça, je veux pas ça. Non, pour moi, je suis responsable dans ma foi. Et je pense que dans ma dégustation de vin, dans ma consommation de vin, je dois le consommer avec responsabilité. Donc si je déguste du vin à la maison et j'exagère un peu, ça ne me gêne pas.
Oui.
Par contre, si je dois prendre la voiture,
oui.
Si j'ai des invités, je leur sers un verre de vin, je leur dis après, c'est vous qui vous servez si vous voulez boire un peu plus. Mais le premier est offert, comme je dis, et l'autre, vous vous servez, parce qu'après, c'est vous qui devez prendre la voiture, et je ne veux pas vous forcer ou quoi que ce soit.
Et dans l'histoire de Noé dont vous parlez, ça se passe mal quand même, parce que les filles profitent de l'ivresse du père pour coucher avec.
Et oui, mais c'est pas, justement, dans le texte, ce n'est pas l'ivresse qui est diabolisée. C'est les conséquences ensuite et les actes des autres personnes.
Oui.
Aussi avec les fils, les filles.
Ouais.
Voilà, c'est pas le fait de consommer de l'alcool qui est vu négativement.
D'accord, d'accord.
C'est là où on a diabolisé. Alors effectivement, l'alcool peut être un problème, mais c'est aussi notre attitude vis-à-vis de l'alcool qui peut...
Oui,
voilà.
Oui.
Donc effectivement, si pour des gens c'est une difficulté, ben, il vaut mieux... Donc voilà, j'ai jamais opposé et effectivement, j'ai eu un moment qui a été une certaine rupture dans justement mon côté légaliste par rapport au vin avec Christophe et il m'a ouvert à nouveau au plaisir épicurien et après j'ai pu jumeler la dégustation, le plaisir, le partage du vin et puis un nouveau plaisir aussi que je ressentais moi.
Et alors, dans la Bible, donc le vin et puis l'évangile. Comment ça se passe? On a vu Noé, on parle beaucoup de vin dans la Bible.
Mais oui, parce que déjà culturellement, c'est globalement le berceau du vin, il se situe un petit peu dans ce bassin-là,
Le
bassin méditerranéen, autour de la Géorgie, du Liban, par là-bas. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de tous les jours. Donc forcément, il y avait du vin, et le vin a aussi une signification particulière, et Jésus... comme le dit la chanson de Juliette, il a transformé de l'eau en vin, il n'a pas fait le contraire.
Voilà. C'est vrai.
Non, mais le vin est présent, comme le pain, c'était des aliments de base.
Oui.
Donc, ce n'est pas diabolisé. Après, le vin, ce n'est pas du vin comme maintenant, bien entendu. Le vin de l'époque, c'était souvent du vin aromatisé, dans lequel on rajoutait toutes sortes de produits, un petit peu, parfois de la résine, comme en Grèce ou à d'autres endroits, pour le conserver un peu plus longtemps, quoi.
Et alors, pourquoi vous avez renoncé à la théologie? Parce que vous auriez pu continuer. Est-ce qu'il y avait que l'envie de faire du vin ou est-ce qu'il y avait déjà autre chose, une critique du système ou...
Alors, je n'ai pas renoncé à la théologie.
Oui.
Parce que je suis toujours théologien et pour moi, ça a toujours animé ma vie, la réflexion sur l'être humain, sur l'humanité, sur la spiritualité. J'ai renoncé au ministère de pasteur.
Ouais.
Et pendant une période, justement, après mon Master 2, j'ai renoncé à Dieu. Je me voyais comme une rupture amoureuse. Il est chez lui, je suis chez moi. On ne s'appelle pas, chacun c'est chez soi et les vaches seront bien gardées. Voilà. Donc, en fait, c'est que j'ai eu, oui, une certaine colère. Moi, une certaine colère contre Dieu.
Oui.
Je me disais, y a des enfoirés qui vivent et qui prospèrent. Et puis, il y a des enfants ou des gens bien qui s'en prennent plein la tête, qui ont des cancers, des trucs comme ça. Et je ne comprenais pas. J'avais aussi une colère contre l'institution. L'institution réformée, qui j'avais des copains, ma maître de stage, d'autres, qui avaient vécu des choses douloureuses en paroisse, des paroissiens qui avaient eu des attitudes néfastes, négatives et avérées, je veux dire, qui avaient une attitude perverse, manipulatrice et autres. Et plutôt que de leur mettre des baffes dans la figure, de manière figurée, j'entends, oui, non, mais ou pourquoi je comprends pas, mais en tout cas, plutôt que de sanctionner, de dire, voilà, vous avez une attitude qui est négative, ce n'est pas possible, et bien on disait au pasteur, non, il ne faut pas faire de vagues, si vous voulez bien changer de poste, on va vous changer de poste. Non, moi ça m'énerve ça. Enfin, bref, ça,
non,
je m'emballe, je m'emballe.
Non, 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 il n'y a pas de raison. On est là pour parler, on n'est pas là pour accuser, mais on est là pour parler, pour dire les problèmes.
Pas. Non, absolument.
Mais justement, et bon, les problèmes, il faut les dire.
Mais absolument, mais
parce
justement.
Justement, je discutais avec... il y avait Jean-François Brenne, donc le président du conseil régional, qui, lors de l'inauguration de la Villa Louis à Montpellier, donc la maison pour les pasteurs à la retraite, le 5 décembre dernier, qui disait qu'il y a une crise des pasteurs, il y a de moins en moins de pasteurs, il y a une crise du recrutement des pasteurs. Et comment faire pour réenchanter le ministère pastoral ? Il faudrait peut-être arrêter de leur casser les pieds aux pasteurs.
Ben, ça, je pense que oui, arrêter de leur casser les pieds. Après, ils ne sont pas parfaits, c'est des êtres humains
qui font des erreurs aussi.
Je vis avec un pasteur, justement, enfin, une pasteur.
Oui, parce que vous êtes mariée avec une pasteur.
Voilà, et donc je vois ses qualités, ses défauts, et j'imagine que quand on travaille avec elle, ce n'est pas toujours évident.
Elle va nous écouter, alors attention.
Mais elle peut nous écouter, elle le sait, je lui dis.
Ah bon, d'accord.
Je pense qu'elle ne sera pas plus tendre si vous y demandez mes défauts.
Mais je veux dire,
et puis j'ai plein de copains pasteurs que je vois. On est des êtres humains.
Bien sûr.
Voilà, on a nos défauts, nos qualités. Mais je pense qu'il y a une image fantasmatique du pasteur dans les paroisses, une image fantasmatique aussi du pasteur à l'époque qui faisait des visites.
Oui.
Oui, d'accord, c'est sûr, c'est génial les visites, mais maintenant, les secteurs ne sont plus les mêmes, la sollicitation n'est plus les mêmes, il y a les réseaux sociaux, etc., qui ont fait que les attentes vis-à-vis d'un pasteur se sont grandement développées, il y a énormément d'enterrements et d'accompagnements à faire, et ils courent partout, et on attend qu'ils soient partout, on attend qu'ils sachent tout faire.
Oui.
Alors, on attend que des pasteurs soient des grands prédicateurs, et il y a des très mauvais prédicateurs en tant que pasteur. À côté de ça, ils vont être exceptionnels dans l'accompagnement.
Oui.
Et on attend qu'ils sachent tout faire, alors que non.
Et moi, j'ai même connu une pasteur à qui on a reproché qu'il n'y avait pas d'enfants à l'école biblique. Vous pouvez quand même pas les faire, les enfants.
Non, en plus. Parce qu'à la limite, si elle en avait, qu'elle les amenait pas à l'école biblique,
non.
Elle en avait même pas.
Ben non. Et donc, il n'y avait pas d'enfants à l'école biblique. Donc, c'est des situations délirantes, effectivement. Et est-ce que vous pensez que ça joue un rôle dans le fait qu'il y a moins de pasteurs ? Est-ce que les gens ont moins envie d'être pasteurs face à ça ?
Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi que on vit plus la spiritualité de la même manière. Peut-être, oui. C'est pas très excitant de l'extérieur d'être pasteur, parce que quand on voit qu'on court partout, qu'ils ont des journées des fois à rallonge, il y a plusieurs demi-journées dans une journée, parce qu'ils travaillent le matin, ils travaillent l'après-midi, ils travaillent le soir. Moi, ça m'arrive de rappeler à ma femme, j'ai dit, écoute, fais attention, là, si tu continues comme ça, tu vas au burn-out. Parce que
oui.
Et les filles, on a deux filles, j'ai dit, les filles ont aussi besoin de passer du temps avec toi.
Ouais.
Voilà, donc oui, je pense que ça a un côté peut-être... Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas allé plus loin.
D'accord.
Parce que j'avais peur de ne plus avoir de vie privée, d'être tellement happé. Parce que je m'étais dit, mon premier poste, autant je vais être envoyé à Calais ou je ne sais pas où, à des endroits où je ne connais personne. Et de ne plus avoir de vie privée, j'avais besoin d'avoir un moment de repos. Et je n'avais pas la maturité à l'époque pour me dire, ben voilà, ça j'arrête, je mets de côté, je compartimente. J'avais peur justement, le métier de pasteur, ce n'est pas un métier où on peut dire à 18h, ma journée est finie. Quoi.
Non.
Et j'avais peur d'être débordé par ces sollicitations. Donc, c'est tout un ensemble. Donc,
Le troisième ici à ce micro qui me dit la même chose.
D'accord.
Pourtant, je n'ai pas reçu 250 personnes.
Non,
non. Mais vous êtes le troisième.
D'accord.
Avec des études de théologie qui ont été très loin et qui ont dit finalement, ce n'est pas possible. Quoi. Je veux avoir une vie privée également.
Mais c'est ça, je pense qu'il y a une image du pasteur d'une autre époque qui a même peut-être jamais existé, mais qui est une image fantasmée. C'est sûr, quand un pasteur avait un ou deux villages à s'occuper, ben forcément, il était plus dispo. Encore que j'ai appris avec ma maître de stage, justement. J'étais à la fac à Montpellier, j'avais fait une suffragance à Montpellier quand j'étais en Master 1.
Ouais.
Et j'avais des collègues pasteurs, je les voyais courir partout, débordés. Et ils me faisaient de la peine, ils me faisaient pitié. Alors qu'ils avaient une famille et tout. Et puis j'arrive à un stage à Chamonix avec ma maître de stage. Et elle me dit, tiens, tu habilles-toi bien, on va aller balader sur les pistes de ski de fond. Je me dis, quoi ?
Ben c'est bien.
Oui. Mais j'arrive de Montpellier où il y avait une surabondance d'activités. Et elle me dit, ben là, c'est calme, on peut aller balader sur les pistes de ski de fond. Et on ne faisait pas rien parce qu'on parlait théologie, on parlait confession de foi. Justement, elle m'a dû titiller, on parlait confession de foi avant de passer à la commission des ministères. C'est à l'époque où il fallait encore commenter la confession de foi. Et elle me titillait, mais on le faisait en marchant, apaisé, au milieu des forêts. Et j'ai vu qu'on pouvait être pasteur plus calme. Mais malgré tout, j'avais toujours cette inquiétude, ce stress, et puis, qui était cumulé avec une colère contre l'institution, des remises en question spirituelles, une difficulté à me dire à quoi sert la prière. J'ai parlé, c'est jouer de la flûte. Hein. Enfin, ma femme jouait de la flûte, donc elle va me taper si je dis ça. Mais bon, en tout cas,
on va essayer qu'elle ne vous tape pas.
Non. Mais voilà. Mais en gros, c'est comme pisser dans un violon. Je me disais, j'espère que je choque personne qui a un violon. Mais donc voilà, en gros, je me disais, la prière sert à rien, on parle à un mur. Voilà. Et donc tout
alors,
ça.
Là, j'ai deux personnes qui. Il faut écouter nos émissions. Donc il y a Florence Blondon qui a parlé de la prière. Et puis il y a Luc Pernaud qui va être diffusé très prochainement.
D'accord.
Et qui parle de la prière aussi.
D'accord.
Et justement, sur le thème, est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça sert à rien ? Enfin bon, c'est très intéressant.
Oui.
Alors, on va revenir après sur la colère, sur les raisins de votre colère. Celle-là, je voulais absolument la faire.
Mais il fallait.
Je suppose qu'on la fait souvent, non ?
Non.
Non ?
Non, pas systématiquement.
Il faut que je fasse breveter.
Mais faites-le.
Les raisins de la colère. Donc, je fais allusion à une œuvre de Steinbeck, Les raisins de la colère, mais et là, les raisons... Bon, c'est un mauvais jeu de mots, je le sais. Mais,
moi qui aime faire beaucoup de jeux de mots, allez-y foncer. S'il y en a d'autres, allez-y foncer. Vous avez
d'accord.
ma bénédiction bachique. Justement.
D'accord. Alors justement, on va revenir sur ce que vous avez fait. Donc, vous quittez... La théologie, enfin non, vous n'avez pas quitté la théologie.
Voilà.
J'ai bien compris.
J'ai
vous
fini
quittez...
mon master 2, j'ai obtenu mon master 2.
Mon
master 2, voilà.
En théologie.
J'ai soutenu mon mémoire de fin d'études, en Ancien Testament d'ailleurs, avec Dany Nocquet.
D'accord.
Éminent
et puis,
professeur
donc, vous
maintenant
faites
à la retraite.
De la sommellerie.
Oui, je me forme en sommellerie.
Voilà,
oui.
Et vous faites aussi des tas de boulots. Vous avez été maçon.
Alors, d'abord, j'ai été sommelier.
Oui.
Je suis parti en Angleterre.
Ouais.
Je suis revenu en France, j'ai rencontré ma femme et j'ai, plutôt que bosser en resto pour avoir une vie de famille, j'ai été un professeur, formateur, consultant. Je fais des dégustations, voilà. Et puis, avec le Covid, déguster. Moi, si vous voulez, l'idée de la dégustation du vin, c'est le lâcher-prise, c'est le partage.
Ouais.
Voilà.
Oui.
Et le Covid, déguster. Avec un masque, se mettre du savon hydroalcoolique de longue,
je ne pouvais
pas le supporter. Donc, pendant vraiment les confinements, j'avais quand même besoin, et mes enfants avaient besoin de manger tous les jours. Hein.
Ouais.
Et trois fois par jour
en
plus.
En plus, ça mange. Hein. Et quand ils sont ados, alors je ne vous dis pas.
C'est
hein.
ça. Et on avait aussi les ados à la maison. Je me suis formé à la maçonnerie chez les compagnons et en alternance, j'ai travaillé chez un maçon.
Et maintenant, vous êtes papa au foyer, si j'ai bien compris.
Exactement. Et maintenant, je suis papa au foyer parce que ma dernière fille est porteuse de trisomie, donc elle va à l'école le matin. Et avec ma femme, on s'est posé la question, est-ce que je travaille pour payer quelqu'un qui s'en occupe comme je suis plutôt papa poule, que j'aime bien m'occuper de la maison, que ce soit ménage, linge, nourriture, fin cuisine, etc. et les câlins, j'ai décidé d'arrêter la maçonnerie. De retoucher au vin, mais plutôt en dilettante et plutôt uniquement en passion. Après, ça m'arrive occasionnellement de travailler pour des copains, faire des fiches de dégustation. Mais principalement, je suis père au foyer, papa professionnel. Et je m'occupe de mes filles.
Vous en avez combien de filles ?
J'ai deux filles.
Deux filles, d'accord.
Une qui a 6 ans, une qui a 9 ans et demi.
D'accord.
Demi est important, hein.
Ah oui, à cet âge-là, oulala, il faut pas louper.
Oui.
Et donc, vos journées, c'est vous occuper du foyer.
Oui, c'est ça, je m'occupe de la maison. Je suis père au foyer, comme avant on disait mère au foyer, je suis père
et
au foyer.
Et alors, est-ce que vous avez dit que vous étiez femme de pasteur ?
Oui, j'aime bien dire en rigolant, je suis femme de pasteur, oui. Mais parce que souvent, on a l'image du pasteur homme, justement, dernière fois, on était à l'école après un petit spectacle de ma fille. Et il y a un papa d'une copine de ma fille qui vient nous voir et qui dit, il y avait ma femme, Ingrid, juste à côté. Il dit, oh, c'est vous qui habitez, mais il y a le presbytère là-bas. Il dit, je dis oui, ma femme, elle est pasteur, machin, tout ça. Donc, il n'a pas dû imprimer. Il dit, mais il y a le presbytère, c'est la maison du pasteur. Ma femme dit, oui, c'est là qu'on habite. Il dit, et ce papa, bien innocemment, il dit, mais c'est votre père, le pasteur ? en disant à ma femme, qui a plus d'une quarantaine d'années, je veux dire. Ouais. Donc je lui dis, il lui dit, c'est votre père le pasteur, que ma femme ne pouvait pas être pasteur,
bah oui,
en fait.
Oui, oui, oui,
voilà.
Oui.
Et moi, il avait compris que je ne l'étais pas parce que j'étais père au foyer. Mais il disait, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'aime bien choquer en disant, je suis femme de pasteur.
Ouais.
Pour choquer un peu. Donc, parce que les gens ont toujours cette image du pasteur qui doit être un homme, etc.
Parce que avant les femmes de pasteur, donc les vraies femmes de pasteur entre guillemets, qui ne travaillaient pas, elles faisaient un boulot dans l'église,
oui,
hein,
aussi, absolument,
complètement.
C'est vrai.
Enfin,
oui,
moi, je vois ma belle-mère ou les gens qui étaient de cette génération-là.
Oui, mais elles faisaient le groupe de femmes, elles faisaient l'école biblique, elles allaient nettoyer la sacristie.
Voilà,
oui,
voilà,
oui, tout à fait.
Elles faisaient un boulot de dingue, et puis elles s'occupaient de leurs gosses, etc. Et vous? Est-ce que vous aidez votre femme dans son ministère pastoral ou alors non, pas du tout?
Si, mais de toute façon, je l'aide, ça faudrait lui demander comment je l'aide de son point de vue. Mais en tout cas, moi, la manière dont je vois ma manière de l'aider, c'est déjà de m'occuper de la maison pour qu'elle ait l'esprit libre.
Oui.
Pour pouvoir se concentrer sur son travail, sur son activité, qu'elle n'ait pas à se soucier d'aller chercher les filles, sauf exceptionnellement quand j'ai des rendez-vous ou autre, mais voilà, qu'elle puisse être disponible pour l'église et pour son travail. Je le vois comme ça. Et puis après, oui, ça m'arrive d'aider, de mettre aussi mes compétences de sommelier au service de l'église si on fait une animation. Cet été, on a un projet de faire une petite guinguette dans le jardin. Et ben voilà, c'est mon côté sommelier. J'ai déjà le copain vigneron que j'ai recruté. Et ma capacité à savoir organiser, gérer un service, faire de la restauration. Après, j'ai aidé la dernière fois à faire du bricolage dans le temple. Et puis, occasionnellement, avant, ça m'est arrivé de l'aider. J'ai eu fait la cuisine dans un camp d'école.
Oui.
Public.
Oui, oui, oui.
Donc oui, je l'aide peut-être plus comme l'image de la femme de pasteur d'une autre époque, mais ben je suis croyant, je suis théologien, j'ai ma spiritualité. Après oui, et je l'aide aussi, je pense
en l'écoutant
tout cas,
peut-être.
Oui.
En l'écoutant, oui.
Oui, et puis on partage des fois nos idées, on discute théologiquement, justement, c'est l'intérêt, c'est que je dis ma femme, j'ai la chance, c'est mon vis-à-vis comme il y a dans l'Ancien Testament, dans le texte de la Genèse, où il dit « Je te donnerai une aide qui sera ton vis-à-vis ». Et pour moi, c'est vrai que je trouve ça phénoménal de voir ma femme comme un vis-à-vis. Elle me voit comme un vis-à-vis, justement, et on parle théologie, on parle choix, ouais. Amour, tout ça. On peut parler de tout. Et justement, d'égal à égal, ni moi avec le côté patriarche, voilà, chef
sûr.
De famille,
oui.
Ni elle en disant pasteur, quoi que ce soit. Non, on a vraiment une discussion, donc je pense qu'on s'aide aussi l'un l'autre. Moi, elle m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours aussi, pour ça, quoi.
Alors, on va faire une pause musicale. Vous nous avez choisi un morceau de, donc...
Hubert Félix Tchéphen.
Voilà, alors on va écouter ce morceau.
Les joyeux éboueurs des âmes délabrées se vautrent dans l'algèbre des mélancolies, traînant leurs métastases de rêves carchérisés entre les draps poisseux des siècles d'insomnie. Ça sent la vieille guenille et l'épicier cafard dans ce chagrin des glandes qu'on appelle l'amour. Où les noirs funambules du vieux cirque barbare se pissent dans le froc en riant de leur tour. J'ai volé mon âme à un clown mécanique du rock'n'roll cartoon. J'ai volé mon âme à un clown au cœur de cône du rêve baby baboon. J'ai volé mon âme. Je rêve d'être flambé au-dessus du Vésuve et me défonce au gaz échappé d'un diesel. À la manufacture métaphysique des flux, où mes synapses explosent en millions d'étincelles. Reflet de flammes en fleurs dans les yeux du cheval que j'embrasse à Turin pour en faire un complice. Ivre de prolixine et la acide cortical. Je dégaine mon Walter PPK de service. J'ai volé mon âme à un clown, à un clown mécanique du rock'n'roll cartoon. J'ai volé mon âme à un clown, à un clown au cœur de clown du FBM et baboon. J'ai volé mon âme à un clown.
Alors, on va revenir, donc, Jérémy, sur votre colère vis-à-vis de l'institution.
Oui.
Parce que vous avez une colère, vous aviez une colère contre Dieu. Bon, mm-hmm. Vous dites que vous avez réglé votre vision de la spiritualité.
Je n'ai pas réglé, mais j'ai fait du chemin. Est-ce oui. que je ne comprenais pas ce qui me mettait en colère ? Maintenant, je l'accepte comme faisant part de l'absurdité du monde, d'une certaine manière.
D'accord. Voilà. Par contre, pour l'institution, vous n'avez pas la même philosophie ou la même distanciation par rapport à la colère.
Non, parce que je pense que là, c'est pas de l'absurdité. Des fois, dans certains choix ou certaines attitudes, où j'ai eu des collègues, ma maître de stage, qui ont vécu des choses difficiles parfois en paroisse, ou un paroissien, comme je disais plus tôt, il s'est avéré qu'il a fait une bêtise, et c'est le pasteur qui était le fusible. Et je trouvais ça aberrant. J'aime beaucoup cette parole de Paul qui dit pour qu'il soit sauvé, on l'a exclu, on l'a livré à Satan, je crois. Et à une époque, je ne comprenais pas du tout, parce que je me dis, mais enfin, comment on peut sauver quelqu'un en l'excluant
oui.
et en le livrant à Satan. Et en
oui.
même temps, au fur et à mesure, j'ai fait mon chemin, je me suis dit, mais en fait, on marque une limite.
Ouais.
On marque une limite et on arrête de trouver des excuses. J'aime bien cette phrase justement de Coluche qui dit « Faut arrêter de trouver des excuses aux imbéciles. On ne peut pas mettre une fleur dans un trou du cul et appeler ça un vase.
» C'est magnifique.
Oui, mais je trouve ça exceptionnel.
Et
trop souvent...
Théologiquement, c'est bien. Il faut faire des prédications là-dessus.
Mais j'en ferai avec plaisir à l'occasion. Ça m'arrive d'en faire occasionnellement, en général autour du vin et de la Bible. Mais oui, je trouve ça génial, cette phrase de Coluche, parce que quelqu'un fait du mal.
Oui.
Si on ne dit rien en cachant un peu ou en disant non, mais il faut comprendre, machin. Non
ah ben c'est ça, on le dit. Hein. Moi, je l'ai entendu.
Oui, bon, mais on le dit, oui,
ah,
c'est
mais
ça.
On est chrétien, il faut pardonner. Oui, mais avant de pardonner, il faut entamer quelque chose.
Il faut reconnaître
voilà,
aussi.
Voilà.
On peut pardonner parce que quand on garde une colère ou une blessure, ben, cette personne a toujours une emprise sur nous. Le fait de pardonner nous libère de cette emprise, mais ça n'excuse pas ce qu'a fait la personne.
Ouais.
Et dans une paroisse, laisser faire une personne sous prétexte qu'on est chrétien, il ne faut pas faire de vagues, et le pasteur dégage parce que le pasteur bouge. Oui, mais du coup, cette personne reste toujours dans la paroisse, elle fait toujours du mal. Alors que des fois, exclure, eh bien en fait, on y pose une limite. On y dit, là, ce que tu as fait, ce n'est pas acceptable. Tu pourras revenir sans problème, tu as ta place qui est réservée, mais d'abord, tu as ton chemin de reconstruction à faire, reconnaître. Et si tu n'es pas capable de changer cette attitude, ta place n'est pas ici.
Mais alors, comment vous conciliez ça avec les mesures de médiation ou de communication non violente ou qui sont progressivement mises en place ?
J'aime beaucoup ces communications. J'essaye dans ma vie, dans mon couple, de travailler sur la communication non violente que j'ai découvert avec Thomas d'Assembourg, justement, le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Mais c'est pas évident, parce que des fois on est fatigué, des fois on est...
Oui,
voilà. Mais bon,
on est humain.
Mais justement, et dans les questions de la communication non violente dont parle Thomas d'Assembourg, il faut commencer par s'écouter soi, reconnaître en soi et mettre des mots sur ce qui nous dérange.
Oui, oui.
Et donc, il faut mettre des mots, il faut nommer juste, et je ne sais plus qui a dit, peut-être Lacan, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde.
Mmh.
Et justement, si on ne nomme pas les choses, donc quelqu'un a fait du mal, moi j'ai fait du mal, oui je le reconnais,
oui.
J'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai fait du mal à ma femme, j'ai dit quelque chose qui déplaisait, j'ai été offensant d'une manière ou d'une autre. Je commence par le reconnaître moi, et ensuite je peux envisager la communication non violente, parce que j'ai reconnu ce qui m'a blessé, le mal que j'ai fait, et on peut en discuter en disant les choses, franchement. Mais il faut réapprendre à dire les choses. Et effectivement, la colère, la canaliser. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait, c'est un travail en psychanalyse que j'ai fait moi pour travailler ma colère, pour arriver à ressentir les choses, me laisser traverser parfois par des émotions et pouvoir les partager, dire « ben voilà, ce que tu as fait n'est pas juste ». Ou moi, ce que j'ai fait, je te demande pardon parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas juste, je t'ai blessé.
Mais si l'autre en face ne veut pas jouer le jeu de la médiation, donc il faut...
Oui,
à
mais
la
il faut
limite,
faire sa part.
Exclure,
oui.
Comme vous dites, comme dit l'apôtre Paul. Donc,
Dans la vie de chaque jour, moi, si des gens, justement, m'ont fait du mal, que je leur dis et qu'ils ne veulent pas, ben, je ne suis pas obligé de continuer à les voir.
oui.
dans une église, quelqu'un qui a fait du mal et qui reste, qui vient tous les dimanches au culte se pavaner, ou qui, parce que peut-être il croit à sa vérité et que pour lui, il n'a pas fait du mal.
Oui, oui.
Mais c'est d'où le rôle. Anciennement, le conseil presbytéral avait aussi un rôle de discernement par rapport aux gens. Et il pouvait convoquer un paroissien et lui dire non. Du coup, tu es exclu de la scène.
Ouais, ouais.
Alors, c'était un petit peu moraliste, un peu trop. Parce que des fois, c'était des questions de mœurs,
rumeurs,
voilà.
Oui, oui, oui.
Mais je veux dire, le conseiller presbytéral avait aussi un rôle de discipline,
de gardien,
voilà. Et donc, mais d'où l'intérêt, c'est ce qu'ils disent dans la Bible, si ton frère pêche, deux ou trois, parce que seul à seul, des fois, alors que si plusieurs se disent oui, effectivement, on est cinq ou six, le conseil presbytéral, il y a plusieurs personnes qui peuvent dire oui, je pense effectivement que ça, ce n'est pas une attitude acceptable dans notre Église.
Alors, est-ce que l'Église réformée doit toujours être réformée? Est-ce qu'elle est assez réformée ou est-ce qu'elle a cessé de se réformer?
Pour moi, on est dans l'Église clérosée de France, là.
Église sclérosée de France.
Ouais, ouais, ouais.
Donc alors, on n'aurait pas dû s'appeler PUDF, on aurait dû transformer Église réformée en Église sclérosée.
Ben, je sais pas, parce que peut-être oui, ça aurait été l'occasion de reconnaître, mais parce que malheureusement, en plus, il y a plein de pasteurs qui ont envie d'apporter du nouveau, des nouvelles choses, mais des fois, on les freine parce qu'on est très attaché à nos pierres, à nos bâtiments. Il y a des très beaux cailloux dans les temples que nos parents et nos grands-parents ont saigné pour pouvoir payer ce temple.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez reconnu le petit ton un peu ironique que j'avais.
Bien sûr.
Mais je me dis zut, quoi. Comme dit Dieu aux Hébreux, vous voulez me construire un temple, pendant 40 ans, j'étais dans une tente, quoi.
Oui, oui, oui.
Donc, on est trop attachés à notre histoire, à nos pierres, à nos oreillettes. Et je pense que parfois, ça nous freine, alors que ça devrait être une richesse. Parce qu'on est reconnu par la société, on est reconnu par les mairies, on est reconnu comme des croyants, des chrétiens. Mais pas fada, pas des sectes ou quoi que ce soit. Donc ça pourrait être une richesse. Et de toute cette histoire, on en a fait un passé lourd plutôt que de nous nourrir.
Oui, 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 oui.
Ça a fait quelque chose de sclérosant.
Ouais.
Voilà, donc je pense que l'Église réformée doit à nouveau se réformer, quoi. Enfin, c'est les PUDF, mais je pense qu'il faut revenir à notre origine, se re-réformer.
Voilà, je ne sais plus qui c'est qui disait, l'Église réformée est toujours à réformer.
Oui, Saint-Père Reformanda, c'était Calvin. Mais justement, on en a oublié, il faudrait presque déconstruire l'institution. Comme on parle d'homme déconstruit, maintenant, il faudrait faire une Église déconstruite.
Et alors, vous en parlez avec vos copains, je suppose.
Oui.
Et avec des gens de l'institution, vous en parlez?
J'ai eu l'occasion, et une fois, j'en ai parlé avec un président de région par rapport au CP. Je dis, mais quand le CP fait une connerie, quand il y a un membre du CP qui fait du mal, est-ce que la région ne peut pas l'exclure? Il me dit, non, on n'a pas ce pouvoir-là. Il me dit, le seul pouvoir que la région a, c'est de faire démissionner tout le conseil.
Ouais.
Je dis, et alors pourquoi pas?
Ouais.
Si le reste du conseil presbytéral cautionne, laisse faire pour ne pas faire de vagues, parce que c'est un ancien de la paroisse, s'il laisse faire, eh ben il est également coupable.
Donc on
démissionne tout le conseil et on recommence. La nature a horreur du vide, elle trouvera des paroissiens qui veulent s'investir pour faire vivre leur église. Parce qu'il y a trop souvent des gens qui disent « Oh non, je ne quitte pas le conseil parce que sinon il n'y aura personne.
Voilà. »
Mais la nature a horreur du vide et Dieu se débrouille sans nous.
Absolument, absolument.
Voilà. Et le message de l'évangile continuera avec ou sans nous de toute façon.
Bien sûr. Bien
sûr. Peut-être mieux sans nous, parfois.
Et avec d'autres membres de l'institution, vous en avez parlé?
Non,
vous avez,
pas
et vous
plus
avez l'impression
que ça.
Parce que moi, je l'entends, ce que vous me dites. Je l'ai entendu plusieurs fois par des pasteurs, par des gens proches de pasteurs, voilà. Et ça ne m'étonne pas vraiment. Alors, est-ce que l'Église l'entend ou est-ce que l'Église ne l'entend pas?
Je ne sais pas. Je pense que certains l'entendent, sans doute. Mais après, certains ne veulent pas l'entendre parce qu'ils sont bien dans l'institution comme elle est. Et certains aiment l'institution et certains voient l'institution comme quelque chose qui nous protège. Et il y a peut-être aussi une illusion. Alors, je ne dis pas que je suis désillusionné ou que je vois mieux que les autres, mais...
L'institution a besoin de gens qui critiquent l'institution pour pouvoir continuer à vivre et pour s'améliorer.
Oui,
toutes les institutions.
Oui, c'est ça. Mais comme dans la vie de tous les jours.
Dans un
couple. Moi, ma femme me dit, tiens, ce que tu as fait ne m'a pas plu. Ben, je dis, oui, voilà, tu as raison, mais je vais changer ce comportement ou je vais essayer, je vais travailler là-dessus. Et ben, sauf que des fois, on est tellement enfermé dans notre fonctionnement ancien réformé depuis 400 ans qu'on a...
Vous portez le poids de ces 400 ans sur
vos... Mais c'est ça, alors que...
Oui, alors mais c'est bien sûr.
Il y a des temples, l'Église protestante unie de France est connue par toutes les mairies, les municipalités.
Je sais bien.
C'est reconnu.
Oui.
Donc ce serait une richesse pour aller au contact des gens, mais au contraire, on a perdu ce dynamisme, l'enthousiasme de la foi, du partage. Moi, j'ai plus témoigné et partagé ma foi, ma spiritualité dans tous mes autres métiers, oui, plutôt que la théologie. Que ce soit maçon, que ce soit sommelier, j'avais des collègues qui venaient me voir, qui me disent « ça, ce que je vais te dire, je peux le dire qu'à toi ».
Ouais.
Et voilà, et alors qu'ils n'étaient pas croyants, rien, ou en tout cas ils ne se disaient pas croyants,
ouais,
mais ils venaient me voir parce qu'ils savaient que j'avais une spiritualité, que j'avais fait théologie, que j'avais failli être pasteur, ils venaient me voir parce qu'ils pouvaient se confier. Donc j'ai plus témoigné en dehors que dans l'église, où parfois des messages de la Pâque, on l'a entendu, la résurrection, on l'a édulcoré.
Édulcoré, comment ça?
Quand on a la croix autour du cou, on a un engin de torture autour de la croix.
Ah oui, oui,
autour,
oui,
du
oui,
cou.
Oui, oui.
La croix, c'est un engin de torture.
Absolument.
Donc on lit des textes, quand on lit, oui, oui. Moi j'aime bien quand je fais occasionnellement des veillées de Noël, eh ben j'aime bien parler de la naissance du Christ, mais aussi le massacre des bébés.
Ah ben tout à fait.
Parce qu'on dit, oh c'est tout beau,
ah ben
il est parti, ils veulent du mignon.
Oui, oui.
Mais justement, moi ce que j'aime dans la foi, c'est que c'est la mort n'a pas le dernier mot.
Ouais.
Donc justement, mais ça veut dire aussi qu'il faut faire face à ce qui est mal.
Ouais.
Toujours pareil, identifier ce qui est mal, mais en gardant bien fermement en nous que la mort n'a pas le dernier mot. Et qu'on a cette espérance folle grâce à Jésus-Christ, grâce à Dieu, que l'amour est là et la vie peut triompher. Mais qu'elle a besoin de nous aussi pour être des acteurs, des combattants de cette vie, quoi.
Alors, je voulais vous demander en dernière question, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si vous aviez été pasteur, qu'est-ce que vous auriez prêché? Mais vous avez commencé à me répondre, finalement.
En quelque sorte, pour moi, l'essentiel... Alors, ce que j'aurais prêché sur la Bible, hein, je pense, voilà. Mais j'aurais essayé de prêcher un amour de Dieu décomplexé, se détacher de conventions, essayer d'être soi, mais un petit peu lié aussi avec une approche psychanalytique des choses, c'est-à-dire essayer d'être humain,
ouais,
d'être humain pleinement, comme Jésus l'a été. Il a été humain avec ses qualités, ses défauts. Il a eu des excès de colère. Il a aussi aimé. Il a aussi été enseigné par d'autres personnes qu'il a rencontrées,
oui,
ses disciples.
La femme, la samaritaine.
Voilà, samaritaine, exactement.
Oui, ouais.
Voilà, il a été rencontré. Donc, je prêcherai l'espérance folle. L'espérance folle, que c'est ce que je dis. C'est la mort n'a pas le dernier mot. Et pour moi, c'est ça la résurrection, que ce soit arrivé véritablement ou pas. C'est ça, c'est le message de l'évangile, pour moi, c'est la mort n'a pas le dernier mot.
Eh bien, c'est là-dessus que l'on termine, hein, sur cette belle prédication, parce que c'est une prédication courte, mais voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à nos auditeurs, que l'on retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas vos réactions à Un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. Voilà, à la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.